Oui, mais écoutez, la première chose que je vais devoir faire, c'est de corriger ce titre, hein, parce
D'accord.
que vous avez donc sur le papier l'intitulé suivant,
Illustré pour renouveler l'enseignement.
l'illustration pour renouveler
Renouveler.
l'enseignement. Quand j'ai vu ce titre, j'ai sauté au plafond, parce que c'est à peu près le contraire de ce que je pense, quoi, en gros. Mais je me suis dit, eh ben, voilà l'occasion d'appuyer ma démonstration, parce que c'est un peu comme un culbuto, ça revient tout le temps. Hein. Il y a une espèce de logique institutionnelle là qui va fortement dans le sens de l'image illustrative. Voilà. Et le titre que j'avais proposé initialement, et je le reprends, c'est « Qu'est-ce qu'une image d'art ?» Parce que je crois qu'il faut commencer par interroger hein, cette réalité-là et qu'il est nécessaire d'en passer par là. Mais ça tombe bien et j'en veux à personne. Hein. Je ne veux surtout pas une attaque qui concerne qui que
C'est
ce
pas
soit. Je
l'interrogation.
sais très bien comment ça marche. Mais je suis au contraire tout à fait ravi d'un certain point de vue que les faits démontrent par eux-mêmes à peu près ce que je vais essayer donc d'avancer et de défendre. Alors, je vais y aller. J'ai amené l'artillerie lourde, hein, il y a quelques ouvrages là, mais rassurez-vous, je ne pense pas que j'utiliserai toutes les munitions. Hein, il y a donc des textes d'historiens de l'art, de philosophes et de quelques artistes. Alors, je vais commencer peut-être en vous disant assez rapidement quels sont les principaux éléments de la thèse que je vais défendre et illustrer. Il se trouve d'ailleurs que je lisais récemment la préface que donnait Nietzsche à l'édition d'une série de conférences hein, qui est intitulée « Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement ». Et j'ai été très frappé par une exigence préalable que formule Nietzsche et que je vais reprendre à mon compte. Avant tout propos, dit-il, enfin en substance, je ne vous donne pas la citation exacte, il faut commencer par dire clairement la thèse qu'on va porter. Alors c'est pour ça que ce titre qui disait le contraire m'a forcément tout à fait frappé. Hein. Alors rassurez-vous, je ne me prends pas pour Nietzsche hein, et je n'ai pas l'intention de disserter sur l'avenir des établissements d'enseignement, mais je voudrais commencer par formuler donc le plus directement possible le point de vue que je vais développer. Alors la thèse tient en trois phrases, enfin, trois propositions. Hein. La première, ce serait pour dire que l'entrée de l'histoire de l'art, des arts, hein, je ne vais pas reprendre ce débat là, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici même, mais enfin cette hésitation entre les deux termes est aussi significative. Donc l'entrée de l'histoire de l'art des arts dans les programmes de l'enseignement est bien sûr une bonne nouvelle. Personne ne peut dire le contraire et le retard qu'on nous signalait tout à l'heure est tout à fait juste. Mais en même temps, c'est un dispositif qui, à mon sens, est gros d'une dérive qui pourrait assez vite obscurcir la bonne nouvelle. Bon, c'est mon premier élément. Deuxième proposition, ce serait pour préciser que l'introduction de l'histoire de l'art est une bonne chose si elle contribue pleinement à l'éducation esthétique. Une chose beaucoup plus contestable si l'abord esthétique de l'œuvre d'art est réduit à la simple lecture de l'image, hein, selon une propension, je ne vais pas à nouveau insister, déjà illustrée. Bref, si l'œuvre d'art est assimilée à une image à lire, alors la question du rôle de l'histoire de l'art et des arts dans l'éducation artistique et esthétique se pose pleinement et doit être posée de manière la plus frontale possible. Et enfin, ma troisième proposition, hein, ce sera pour poser la question, j'avais commencé par là, qui me paraît tout à fait incontournable et qui devrait, selon moi, être la question préalable. Qu'est-ce que c'est au juste qu'une image d'art? Quelles sont les caractéristiques, la singularité d'une image d'art? Alors, je vais ajouter, pour terminer ce rapide préambule, que cette question-là est tout autant une question esthétique, bien sûr, ça va de soi, qu'une question anthropologique. Une image d'art nous définit en tant qu'être humain. L'une des particularités donc de l'humanité, c'est précisément de produire des images d'art. Je prends quelques exemples, hein, des Vénus de la préhistoire et des peintures rupestres aux images de l'art vidéo. en passant par la sculpture romane, la peinture abstraite et bien d'autres formes symboliques. Eh bien, comme l'écrit Hans Belting, qui est un grand historien de l'art sur lequel je reviendrai, dans l'histoire humaine, la fabrication des images atteste une persistance et une continuité au moins égale à celle de la question de soi que l'homme n'a jamais cessé de se poser. De la même façon que l'homme s'interroge sur lui-même, eh bien, il ne cesse de produire des images d'art qui, bien entendu, ont dans leur forme matérielle, dans leur médium, considérablement changé, se sont considérablement modifiés depuis les Vénus préhistoriques jusqu'à l'art vidéo, mais qui sont porteurs d'une même singularité. Alors, je vais donc essayer, alors non pas de répondre à proprement parler à cette question de manière directe, mais au moins d'apporter quelques éléments de réponse, et avec la conviction, j'y insisterai peut-être pour conclure, que ces éclairages, ces éléments de réponse sont aussi des clés pédagogiques pour la question de l'enseignement de l'histoire de l'art. Et comme je vous le disais, je vais emprunter ces éléments de réponse à la fois à des historiens et des esthéticiens, à Didier Huberman, qui est un philosophe et historien de l'art, à Hans Belting également, que j'évoquais donc tout à l'heure, mais aussi, et je voudrais peut-être dire surtout, même si je n'aurais sans doute pas le temps de le faire suffisamment, à des artistes, Giacometti notamment, Matisse, j'aurais pu aussi choisir Francis Bacon et bien d'autres. Voilà. Alors je vais donc entrer dans le vif donc de ces éclairages, et le premier éclairage, je vais aller le chercher, je vais l'emprunter à Didier Huberman, donc, qui est un historien de l'art bien connu, mais assez atypique, dans la mesure où il fait partie de ces historiens de l'art, mais de plus en plus nombreux, extrêmement critiques à l'histoire de l'art sous sa forme traditionnelle. Et Didier Huberman a écrit un ouvrage qui a déjà quelques années, il date de 1990, qui s'appelle « Devant l'image », voilà, et qui est une interrogation sur l'image d'art. Et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le début de l'ouvrage. Pourquoi ? Eh bien, parce que il commence par le récit d'une expérience personnelle qui est celle de la rencontre de l'auteur, Georges Didier Huberman, avec une œuvre d'art, et il s'agit d'une, vous allez le voir, d'une fresque donc de Fra Angelico. Alors, ce que je vous propose, c'est pas de l'écouter, enfin de l'écouter par l'intermédiaire de ma voix, donc, mais surtout d'essayer de retrouver vous-même, de retrouver nous-mêmes cette expérience singulière dans votre propre, dans notre propre expérience. Voilà. Alors, j'en viens rapidement, donc, au moins au début de cette lecture, c'est le tout début du livre, et ça commence comme cela. Posons un instant notre regard sur une image célèbre de la peinture renaissante. C'est une fresque du couvent San Marco à Florence. Elle fut très vraisemblablement peinte dans les années 1440 par un frère dominicain qui habitait dans les lieux et qui fut plus tard surnommé Fra Angelico, donc un peintre extrêmement connu. Elle se trouve dans une toute petite cellule passée au blanc de chaux, une cellule de la clausura qu'un même religieux, on peut l'imaginer, a quotidiennement retrouvée pendant des années, au XVe siècle, pour s'y esseler, y méditer l'écriture, y dormir, y rêver peut-être, y mourir. Lorsqu'on pénètre aujourd'hui dans la cellule, encore assez silencieuse, le projecteur électrique braqué sur l'œuvre d'art ne réussit même pas à conjurer l'effet d'offuscation lumineuse qu'impose le tout premier contact. À côté de la fresque, il y a une petite fenêtre orientée vers l'est, et dont la clarté suffit à envelopper notre visage, à voiler par avance le spectacle attendu. Peinte, dans un contre-jour volontaire, la fresque d'Angelico obscurcit, en quelque sorte, l'évidence de sa saisie. Elle donne l'impression vague qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Quand l'œil s'habituera à la lumière du lieu, l'impression curieusement s'imposera encore. La fresque ne s'éclaircit que pour retourner au blanc du mur, puisque tout ce qui est peint ici consiste en deux ou trois taches de couleur délavées, subtiles, placées sur un fond de la même chaux, légèrement obombré, Ainsi, là où la lumière naturelle investissait notre regard et nous aveuglait presque, c'est le blanc désormais, le blanc pigmentaire du fond qui vient nous posséder. Alors vous voyez, premier contact donc d'un historien de l'art avec cette fresque, eh bien, première remarque, cette toute première expérience, hein, si on veut bien y rester un moment, nous oblige à nous interroger sur ce que signifie au fond voir une œuvre d'art, à nous interroger sur ce qu'est le visible, et plus encore ce que c'est que lire une œuvre d'art. Parce que, bien sûr, et nous avons tous fait cela, nous avons grand peine à nous en tenir à cette expérience-là. Très vite, notre culture l'emporte. On n'a quand même pas fait le voyage de Florence pour si peu, hein, qu'un peu de poudroiement lumineux. Hein. Et c'est exactement d'ailleurs sur ce thème que poursuit Lydie Huberman. Et voilà quelques éléments donc du texte qui suit. Alors que je vous le retrouve. Et voilà. Mais nous sommes prévenus à lutter contre cette sensation, donc ce poudroiement lumineux. Le voyage à Florence, le couvent devenu musée, le nom propre de Fra Angelico, tout cela nous demande de voir plus avant. C'est avec l'émergence de ces détails représentationnels que la fresque, peu à peu, deviendra réellement visible. Elle le devient au sens d'Alberti, c'est-à-dire qu'elle se met à délivrer des éléments discrets de signification visible, des éléments discernables en tant que signe. Elle le devient au sens de l'historien d'art qui, aujourd'hui, s'applique à reconnaître ici la main du maître et là celle du disciple, juge de la régularité ou non de sa construction en perspective et tente de situer l'œuvre dans la chronologie d'Angelico, voire dans une géographie de la stylistique toscane du XVe siècle. La fresque deviendra visible aussi, et même surtout, parce que quelque chose en elle aura su évoquer ou traduire pour nous des unités plus complexes, des thèmes ou concepts, comme disait Panofsky, des histoires ou des allégories, des unités de savoir. À ce moment, la fresque aperçue devient réellement, pleinement visible, elle devient claire et distincte, comme si elle s'explicitait d'elle-même, elle devient donc lisible. Voilà. Alors, je m'arrête un moment parce que je crois que nous avons là quelques éléments de réponse à la question que je posais initialement. Qu'est-ce qu'une image d'art ? Et je vous invite à souligner trois éléments. Bon, la première réflexion concerne la question qu'est-ce que le visible d'une œuvre d'art ? Quand l'œuvre devient-elle visible ? Et vous avez une réponse tout à fait explicite, je cite littéralement donc Didier Berman, « quand elle se met à délivrer des éléments discernables en tant que signe. » Quand elle se met à délivrer des éléments discernables en tant que signe. Premier éclairage. Deuxième éclairage, Didier Berman nous dit « c'est à partir de là que l'image d'art devient un objet pour l'historien de l'art et le savoir de l'histoire de l'art. C'est à partir du moment où il y a des signes discernables. Voilà. Troisième élément, et c'est là où porte plus particulièrement ma critique, en tout cas ma mise en garde, sur ce chemin-là, c'est à nouveau ce que nous dit à peu près Didier Huberman, sur ce chemin-là, l'image glisse du visible au lisible. On en vient à ceci, que nous sommes passés d'une image à voir à un texte à lire. Et c'est ce que la suite du texte, que je ne vais pas lire, nous dit de multiples façons. Alors, à ce stade de l'analyse, hein, je crois qu'on peut noter que le propos de Didier Huberman a une portée qui n'est pas sans intérêt sur le plan pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que la pente de l'histoire de l'art, dans sa nature même, et de tirer l'image d'art, et surtout notre rapport à l'image d'art, sa réception donc, du côté du lisible, de l'activité lexicale. Il faut lire les œuvres d'art. Mais il nous dit aussi, dans un deuxième temps, ou du moins il nous laisse entendre, que cette direction n'est pas sans poser problème, hein, que cette réduction du voir au visible, et puis avec un cran de plus, un tour de plus au lisible, perd quelque chose de l'image d'art, hein, en trahit, en partie au moins, la nature et la portée. Et Eddie Lieberman nous laisse entendre qu'une autre conception du rôle de l'histoire de l'art est peut-être possible. Et ce à quoi donc ensuite invite Eddie Lieberman, qui est peut-être là, me semble-t-il, une invitation dont on peut mesurer la portée pédagogique, c'est d'en revenir à l'expérience initiale, c'est-à-dire que, au face-à-face avec l'image. C'est-à-dire que le savoir ne fasse pas écran à la véritable relation esthétique, à ce que, vous allez le voir, Eddie Lieberman va appeler le visuel, hein, par différenciation du visible. Alors, je me contente là aussi, hein, de quelques extraits. Tentons d'aller un peu plus loin, dit-il, ou plutôt restons un moment de plus face à face avec l'image. Voilà ce qu'il nous demande, hein, voilà l'expérience qu'il nous demande de prolonger cet arrêt sur image, on pourrait peut-être l'appeler comme cela. Assez rapidement, notre curiosité en détail représentationnel risque de décroître, et un certain malaise, une certaine déception viendront peut-être voiler, une fois de plus, la clarté de nos regards. Déception quant au lisible. Cette fresque se donne en effet comme l'histoire la plus pauvrement, la plus sommairement racontée qui soit. Aucun détail saillant, aucune particularité apparente ne nous diront jamais comment Fra Angelico voyait la ville de Nazareth, par exemple, lieu historique, dit-on, de l'Annonciation, où situait la rencontre de l'ange et de la Vierge. Rien de pittoresque dans cette image, c'est la moins bavarde qui soit. Et il poursuit un petit peu plus loin. De cette impression de mal vu, mal dit, les historiens d'art ont souvent retiré un jugement mitigé quant à l'œuvre en général et quant à l'artiste lui-même. Ailleurs, au contraire, on met à profit la béatitude et l'angélisme du peintre. Si le visible ou le lisible n'ont pas été le fort de Fra Angelico, c'est qu'avec l'invisible et l'ineffable, justement, il était à son affaire. Et il termine donc sur ce propos, je m'en tiens donc à la toute fin donc de son texte. Regardons vraiment, il n'y a pas rien puisqu'il y a le blanc, il n'est pas rien puisqu'il nous atteint sans que nous le puissions saisir, et puisqu'il nous enveloppe sans que nous le puissions à notre tour prendre dans les raies d'une définition. Il n'est pas visible au sens d'un objet exhibé ou détourné, mais il n'est pas invisible non plus, puisqu'il impressionne notre œil, et fait même bien plus que cela. Il est matière, il est un flot de particules lumineuses, dans un cas, un poudroiement de particules calcaires dans l'autre. Il est une composante essentielle et massive dans la présentation picturale de l'œuvre. Nous disons qu'il est visuel. Alors vous comprenez que ce que nous dit ici Eddie Lieberman, c'est que cette tentation à laquelle l'école est particulièrement exposée, à l'école, lire, c'est son affaire. Donc, transformer le monde en du lisible, d'une certaine manière, est peut-être la toute première opération qui habite l'esprit de l'école. Et Eddie Lieberman nous dit que dans ce cas, ce qui est occulté, c'est la matérialité même de l'œuvre, c'est ce poudroiement de lumière, mais c'est en même temps notre corps qui en est le lieu de réception dans sa nature physique, charnelle. Alors, dire que l'histoire de l'art est un enjeu, comme le disait tout à l'heure Olivier Faron, intellectuel et social, oui, mais attention à ne pas réduire l'art à un enjeu purement intellectuel. Une éducation esthétique qui n'aurait pour but que de renforcer l'intellectualité qui est au cœur, peut-être, déjà de notre école et de ce qu'on peut appeler la forme scolaire, je ne suis pas certain qu'elle constituerait un véritable progrès. Et peut-être que de ce point de vue, le retard que nous avons et qui est indéniable sur l'Italie est aussi une chance. Peut-être que c'est la chance de concevoir un enseignement de l'histoire de l'art qui soit aussi attentif à sa dimension esthétique. Alors, vous pourriez me dire, je n'ai pas trop regardé l'heure, je dispose de combien de temps, c'est bon, d'accord. Oui, vous pourriez me dire que tout ceci, au fond, c'est la lecture, je parle de Didier Berman, d'un spécialiste, d'un esthète, d'un philosophe. Eh bien, ce que je voudrais, dans un second temps, au moins pour l'illustrer, vous montrer, c'est que c'est précisément ce regard-là que porte l'artiste lui-même, et sur son propre travail, et sur les œuvres d'art. Il y a une expression de Didier Berman que je n'ai pas lue, et donc je ne l'ai pas citée. Didier Berman ne parle pas simplement du visuel, il parle de l'efficacité visuelle. C'est-à-dire que ce que cherche une image d'art, c'est l'efficacité visuelle. Il va même jusqu'à dire que ce que cherchait l'art chrétien médiéval, ce n'était pas de se constituer un musée d'œuvres d'art, hein, mais de donner la plus grande efficacité visuelle au message qui était le sien. Eh bien, cette recherche de l'efficacité visuelle ou de l'efficacité du visuel, j'oublie simplement une phrase de Lieberman qui en résume assez bien l'importance. L'histoire de l'art, dit-il, échoue à comprendre l'immense constellation des objets créés par l'homme en vue d'une efficacité du visuel lorsqu'elle cherche à les intégrer au schéma convenu de la maîtrise du visible. Si je veux intégrer l'image d'art à la maîtrise du visible au point d'en faire du lisible, dans ce cas, je passe à côté de ce qui est peut-être l'essentiel, l'image d'art comme puissance du visuel, hein, efficacité du visuel dans sa dimension donc anthropologique. Alors, je reviens à ce que je vous disais. Si je me tourne maintenant vers quelques artistes, eh bien, on va y rencontrer une approche, un discours, en des termes souvent moins savants, mais beaucoup plus directs et non moins efficaces, qui disent des choses tout à fait comparables. Alors, j'ai choisi le cas d'Alberto Giacometti parce que, excusez-moi, son exemple est d'autant plus fort que, comme vous le savez sans doute, la quête permanent de Giacometti, hein, qui explique la multiplicité des portraits qui sont toujours les mêmes, ou bien des sculptures qui sont toujours les mêmes. La quête permanente de Giacometti, c'est de la ressemblance. Qu'est-ce que c'est que ressembler, hein? Comment donner à une image l'efficacité visuelle qui atteigne la véritable ressemblance? Et je vais vous donner simplement quelques éléments extraits d'écrits d'Alberto Giacometti qui ont été réunis, vous savez, dans la collection Hermann Savoir sur l'art, hein, donc les écrits de Giacometti, qui rassemblent un ensemble de textes divers. Et je vais en prendre simplement, mais brièvement, deux ou trois, tout à fait étonnants de ce point de vue et extrêmement illustratifs. Merci. Et je vais commencer par ouvrir un texte qui a pour titre « Lettre à Pierre Matisse », Pierre Matisse étant le propriétaire d'une galerie new-yorkaise qui a l'un des tout premiers donc accueilli Giacometti sur le plan international. Et cette lettre figurait dans le catalogue de l'exposition en 1948. Donc je vais vous en simplement donner un passage. Alors, c'est pas facile à lire parce que l'ouvrage reproduit la calligraphie même, imprimée, dessinée, avec des ratures, mais voilà. Je crois que je vais y arriver quand même. J'ai travaillé avec modèle toute la journée de 1936 à 1940. Je vais changer de lunettes, excusez-moi, parce que c'est tout petit. J'ai un peu des problèmes de vue en ce moment. Donc, j'ai travaillé avec modèle toute la journée de 1935. Vous voyez, j'ai bien fait de corriger. À 1940. Rien n'était tel que j'imaginais. Une tête. Je laissais de côté très vite les figures. C'en était trop. Une tête devenait pour moi un objet totalement inconnu et sans dimension. Deux fois par an, je commençais deux têtes, toujours les mêmes, sans jamais aboutir. Et je mettais mes études à côté, dont j'ai encore les moules. Enfin, pour tâcher de les réaliser un peu, alors, réaliser, pour Giacometti, ça veut toujours dire rendre présent, réaliser au sens le plus fort, rendre réel. Enfin, pour tâcher de les réaliser, je recommençais à travailler de mémoire. Mais ceci surtout pour savoir ce qui me restait de tout ce travail. Pendant toutes ces années, j'ai dessiné et fait un peu de peinture, et presque toujours d'après nature. Mais, voulant faire de mémoire ce que j'avais vu, à ma terreur, les sculptures devenaient de plus en plus petites, elles n'étaient ressemblantes que petites, et pourtant, ces dimensions me révoltaient, et inlassablement, je recommençais pour aboutir, après quelques mois, au même point. Une grande figure était pour moi fausse, et une petite tout de même intolérable, et puis elle devenait si minuscule que souvent, avec un dernier coup de canif, elle disparaissait dans la poussière. Mes têtes et figures me semblaient un peu vraies que minuscules. Voilà, excusez-moi, c'est pas facile à déchiffrer. Voilà. Ce que vous avez entendu là, hein, c'est vraiment une formulation de cette quête de la ressemblance, Giacometti. On le voit bien à travers ces... Il n'arrive pas à comprendre, et on peut justement se mettre à sa place, hein, comment il lui faut absolument faire ces statuettes si petites et si peu à l'image du réel, enfin au sens de la représentation imagée traditionnelle, pour qu'elles soient vraies. Comment se fait-il que la ressemblance passe par cette déformation, d'une certaine façon, si on s'en tient, en tous les cas, au critère de la fidélité à la représentation visuelle telle qu'on peut généralement la concevoir. Et je vous en donnais une autre formulation, alors qui est proprement hallucinante, celle-ci. Et c'est un texte qui a été publié en 46 dans la revue Labyrinthe et qui est intitulé « Le rêve, le sphinx et la mort de Thé ». Donc un texte vraiment d'allure surréaliste. Et j'en extrais un bref passage, enfin, tout à fait étonnant, hein. À ce moment-là, je commençais à voir les têtes dans le vide, dans l'espace qui les entoure. Quand pour la première fois j'aperçus clairement la tête que je regardais se figer, s'immobiliser dans l'instant, définitivement, je tremblais de terreur comme jamais encore dans ma vie et une sueur froide courut dans mon dos. Ce n'était plus une tête vivante, mais un objet que je regardais comme n'importe quel objet, mais non autrement, non pas comme n'importe quel objet, mais comme quelque chose de vif et mort simultanément. Je poussais un cri de terreur, comme si je venais de franchir un seuil, comme si j'entrais dans un monde encore jamais vu. Tous les vivants étaient morts, et cette vision se répéta souvent, dans le métro, dans la rue, dans le restaurant, devant mes amis. Ce garçon de chez Lip, qui s'immobilisait penché sur moi, la bouche ouverte, sans aucun rapport avec le moment précédent, avec le moment suivant, la bouche ouverte, les yeux figés, dans une immobilité absolue. Mais en même temps que les hommes, les objets subissaient une transformation, les tables, les chaises, les costumes, la rue, jusqu'aux arbres et aux paysages. Ce matin, en me réveillant, je vis ma serviette pour la première fois. Cette serviette sans poids, dans une immobilité jamais aperçue, et comme en suspens, dans un effroyable silence. Elle n'avait plus aucun rapport avec la chaise sans fond, ni avec la table dont les pieds ne reposaient plus sur le plancher. Le touchait à peine, il n'y avait plus aucun rapport entre les objets séparés par des incommensurables gouffres de vide. Je regardais ma chambre avec effroi et une sueur froide à nouveau coula dans mon dos. Vous voyez donc là la quête de Giacometti dans son extrémité. Alors je pourrais en lire d'autres et je vous conseille très très vivement d'ailleurs la lecture de ces écrits de Giacometti qui sont une mine pour illustrer ce que c'est. Mais je voudrais en lire malgré tout un tout dernier, parce que cette fois, ce n'est pas Giacometti parlant de son travail à lui, mais Giacometti face, alors pas à Frangelico, mais à Giotto, on est à peu près donc dans le même créneau, si je puis dire. Et vous allez voir que ce rapport à l'image d'art qui est celui de Giacometti, artiste créateur, c'est aussi celui de Giacometti, artiste héritier, et qui va puiser dans les œuvres du passé ce qu'il cherche lui-même à dire. Alors il s'agit donc d'un texte qui est intitulé « Mai 1920 » et qui avait été publié dans la revue Verve, donc un peu plus tard, en 1952. Et je vous lis donc rapidement cela. C'est vrai que pendant ce séjour à Venise, donc il est à Venise, je n'étais passionné que par le Tintoret. C'était une affection intense et de l'amour que j'éprouvais pour lui à travers ses peintures. J'ai passé tout le mois à courir à travers la ville, inquiet qu'il puisse y avoir une seule de ses toiles cachée quelque part dans un coin d'église ou ailleurs. Tintoret était pour moi une découverte merveilleuse. C'était un rideau ouvert sur un monde nouveau et qui était le reflet même du monde réel qui m'entourait. Je l'aimais d'un amour exclusif et partisan. Je n'avais qu'hostilité et antipathie pour les autres peintres vénitiens, pour Véronèse et le Titien. Pas pour Bellini, je l'admirais, mais comme de loin, il ne m'était pas nécessaire à ce moment-là. Tintoret avait raison et les autres avaient tort. Le dernier jour, encore j'ai couru à San Giorgio Maggiore et à l'école San Rocco, comme pour lui dire adieu. Adieu au plus grand des amis. Le même après-midi, en entrant dans la chapelle de la Reine à Padoue, je reçus un violent coup de poing en pleine poitrine devant les Giotto. J'étais désorienté et perdu. J'éprouvais immédiatement une peine immense et un grand chagrin. Le coup de poing atteignait aussi le Tintoret. La force de Giotto s'imposait à moi irrésistiblement. J'étais écrasé par ces figures immuables, denses comme du basalte, avec leurs gestes précis et justes, lourds d'expression et souvent de tendresse infinie, comme dans la main de Marie touchant la joue du Christ mort. Il me semblait que jamais aucune main ne pourrait faire un geste autre dans une circonstance analogue. Vous voyez, donc la même force. Et ce que dit Giacometti, c'est que ces statues-là lui tombent dessus et lui plient le dos. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Jean Genet, qui a posé, donc vous le savez, pour de nombreux portraits, et qui a publié, donc je vous encourage vivement la lecture également, un tout petit texte s'appelle « L'atelier d'Alberto Giacometti », dans lequel Jean Genet parle de Giacometti, mais à partir de son expérience d'être resté si longtemps, des heures et des heures à poser pour Giacometti. Et vous y retrouvez, je pourrais aussi bien puiser dans ce texte-là pour illustrer ce que je voulais vous dire, mais je crois qu'il va falloir quand même que... J'ai encore quelques minutes pour terminer cela. Mais écoutez, alors, dans ce cas, je vous lis au moins un petit extrait de Genet, qui est peut-être celui où il parle justement de sa rencontre avec les statues. Voilà ce qu'il écrit. « Quand apparut brusquement, car la niche est coupée nette au ras du mur, sous la lumière verte Osiris, j'eus peur. Mes yeux, naturellement, furent les premiers renseignés. » Il pose une question. « Non. Mes épaules, d'abord. Et ma nuque, qu'écrasait une main, ou une masse qui m'obligeait à m'enfoncer dans les millénaires égyptiens, et mentalement à me courber, et davantage même, à me ratatiner devant cette petite statue au regard et au sourire dur. Il s'agissait bien d'un dieu, de celui de l'inexorable. Je parle, on s'en doute peut-être, de la statue d'Osiris, debout dans la crypte du Louvre. J'avais peur, parce qu'il s'agissait d'une erreur, sans erreur possible, d'un dieu. Certaines statues de Giacometti me causent une émotion bien proche de cette terreur, et une fascination presque aussi grande. » Et j'insiste sur ce qu'il vous dit au début, mes yeux, naturellement, furent les premiers renseignés, donc le visible. Et il dit non. Mes épaules, d'abord, et ma nuque, qu'écrasait une main ou une masse qui m'obligeait à m'enfoncer dans les millénaires. Voilà, encore quelque chose qui nous incite à ne pas réduire l'image d'art à du simple visible, prêt très très vite à devenir du lisible, mais bien une relation dans laquelle le corps tout entier est concerné, interpellé, ému. On pourrait donc dire les deux choses à la fois. Alors, bon, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout cela du point de vue qui nous occupe? Alors, pour moi, vous en voulez bien, une résolution plus forte à refuser la réduction du visible au lisible, je cesse de le dire, mais aussi, pour le dire de façon peut-être positive, une résolution à tout mettre en œuvre pour que l'éducation artistique sache introduire cette dimension et cette expérience dont nous parlent Giacometti, Genet et d'autres, et qui sont la dimension et l'expérience proprement esthétique. Je crois qu'il y a là une exigence, pour moi, qui est tout à fait clé. Bon, je me suis tourné, je vous le disais, vers Giacometti et vers Genet. J'aurais pu tout aussi bien convoquer quelqu'un comme Francis Bacon avec ses images coup de poing et les entretiens avec Sylvester, qui doit être publié, je crois, dans la même collection chez Herman, donc sont tout à fait extraordinaires de ce point de vue. J'aurais pu m'arrêter sur Matisse également, à la quête de l'expression chez Matisse. Et dans les écrits et propos sur l'art de Matisse, vous avez de nombreux textes, notamment les notes d'un peintre, hein, qui permettent là aussi d'aller dans ce sens-là. Bon, je ne vais pas vous en lire pour le moment, ce sera pour une autre fois. Et puis je vais peut-être conclure autour de quelques idées. Et plutôt que de conclusion, d'ailleurs, ce sera une façon de résumer mon propos, hein, puisqu'il est centré sur quelques idées que je vous ai rapidement donc exposées dès le début et que le développement avait surtout pour but d'éclairer. Alors, je vais tout de même conclure en avançant trois propositions, hein. Un peu redondantes, puisque je crois que là, ce sont des choses que j'ai dit à plusieurs reprises, hein. Alors, premièrement, pour que les choses soient tout de même claires, mon point de vue n'est pas de récuser purement et simplement l'histoire des arts ou l'histoire de l'art. Je crois que là, il ne faudrait pas là-dessus se méprendre, hein. Bon, je sais bien, et nous savons tous, hein, que ces repères sont importants, sont essentiels même. Il y a un véritable enjeu intellectuel et social. Et en entendant Olivier Faron comparer avec l'Italie, je me souviens très bien être sorti de la cathédrale d'Orvieto, où sont les fresques de Signorelli, hein, et faire une longue balade à pied dans la campagne. Vous allez dans un petit village à 20 km d'Orvieto, la patronne du café connaît les frais de Signorelli. Faites 30 km, même pas 5 km, 10 km autour de Besançon, vous aurez du mal à trouver un cafetier qui connaît Courbet. Enfin, on pourrait prendre d'autres exemples dans n'importe quelle autre ville, hein, bien sûr. Donc, je ne méconnais pas du tout cela. Et je sais que l'ignorance, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot, dans laquelle sont la plupart des élèves et bien des adultes d'ailleurs, hein, concernant ces repères, cette ignorance est considérable et que elle coupe tout simplement de l'accès au passé. Et il faut bien qu'il y ait un minimum de visibilité tout de même, mais quelquefois ce n'est même plus visible du tout. Et dès lors, sans repère, il est certain que les œuvres deviennent lettres mortes, même pas du lisible, c'est de la lettre morte, hein, tout simplement. Alors, simplement, il s'agit pour moi simplement de mettre en garde, hein, je le dis bien, contre la réduction de l'éducation artistique à l'alphabétisation sémiologique, hein, pour le dire en une seule formule, ou encore la réduction de l'image d'art à une simple textualité, ou encore de la relation esthétique à une relation lexique. Bon, c'est trois manières de dire à peu près la même chose. Ça, ce serait ma première proposition de conclusion. La seconde, et là je me répète, je considère qu'il n'y a pas d'éducation artistique authentique qui ne soit aussi et même d'abord une éducation esthétique. Il m'arrive même quelquefois de le dire de façon peut-être un petit peu provocatrice, hein, en disant « Avant d'emmener vos enfants, je parle des plus petits, hein, bien sûr, traîner dans les musées, emmenez-les au cœur de la forêt voisine, demandez-leur de fermer les yeux, d'écouter, de toucher, d'ouvrir les yeux, de sentir, bref, passer par ce que l'esthétique a de profondément corporel, charnel, cette attention de tout le corps au monde, avant d'en passer par cette visite qui, à mon sens, ne trouvera tout son sens que si précisément nous savons que ce qu'il y a sur les murs, ces toiles-là, sont passées d'abord dans un corps, hein, et dans une émotion chez des êtres vivants qui les ont vécues et qui ont éprouvé le besoin de faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient ce vécu-là. Alors, l'histoire de l'art, me semble-t-il, et d'ailleurs c'est ce que j'ai un peu essayé de faire, peut y contribuer. Ce serait une erreur de passer à côté de cela. L'histoire de l'art, l'histoire des arts, peut parfaitement contribuer à nous aider à cette éducation esthétique, hein, à condition justement qu'on prenne en charge ce qu'elle nous dit du visuel, de l'efficacité visuelle notamment. Et il me semble qu'il y a là, il devait partir, ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui l'ai fait fuir, il m'avait averti, donc un rendez-vous urgent là tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a là un enjeu pédagogique important qu'on pourrait exprimer au fond par cette question. Comment penser et enseigner l'histoire des arts en sorte qu'elle participe aussi de l'éducation esthétique, simplement. Et puis enfin, ma troisième et dernière proposition, de toute façon, donne un peu une piste pour répondre au moins en partie à cette question. Je l'ai dit à plusieurs reprises, une authentique éducation esthétique doit prendre appui sur la singularité de l'image d'art. Ça veut donc dire aussi qu'un enseignement d'histoire des arts soucieux d'éducation esthétique se doit de prendre en compte cette singularité, bien entendu. Alors, du coup, ça déplace un peu d'un cran mon interrogation, c'est au fond, en quoi consiste cette singularité ? Il me semble que la façon la plus simple de répondre à cette question, c'est de rappeler que l'image d'art est une donnée anthropologique. Et d'ajouter donc du même coup que la pédagogie de l'image d'art passe par l'approche anthropologique de l'image et de l'image d'art. En d'autres termes, mon propos final, ce serait pour un plaidoyer, en somme, en faveur d'une anthropologie des images. Et c'est précisément le titre, mais il est dans mon sac, là je ne l'ai pas sorti, d'un ouvrage de l'historien Hans Belting, qui s'appelle « Pour une anthropologie des images », dans laquelle cet historien d'art, justement, s'efforce de restituer dans le champ de l'histoire de l'art cette espèce de point aveugle que décrit très bien dans le texte que je vous lisais au début d'Idu Berman, qui fait qu'on oublie le visuel. Donc, Idu Berman, Hans Belting, Belting, hein, fait tout au contraire pour... Je vais donc terminer en lui donnant la parole, en précisant qu'il a écrit, et c'est paru en poche, un livre extrêmement stimulant, parce que le titre en est éminemment provocateur, hein, « L'histoire de l'art est-elle finie ?» C'est intéressant qu'un grand historien de l'art ait cette interrogation-là aujourd'hui. Et je termine donc en vous lisant peut-être deux propos que je vais mettre en parallèle. Le premier est la définition que propose Didier Berman de l'image d'art. Une image, dit-il, est plus que le produit d'une perception. Ça, je crois que c'est extrêmement important de partir de là. C'est plus que le produit d'une perception. Elle apparaît comme le résultat d'une symbolisation personnelle ou collective. Tout se passe sous nos yeux, qu'il s'agisse de la vision physique ou du regard intérieur. Non, excusez-moi, tout ce qui se passe sous nos yeux, qu'il s'agisse de la vision physique ou du regard intérieur, se laisse donc élucider ou transformer en image. Ainsi, la notion d'image, si l'on veut bien la prendre au sérieux, ne saurait-elle être en définitive qu'une notion anthropologique ? Voilà donc sa conclusion. Et puis, je vais quand même vous lire, et ce sera vraiment ma dernière lecture, un propos que j'avais l'occasion d'ailleurs de lire la dernière fois que j'étais venu ici, parce que je l'avais déjà en tête, qui se trouve donc dans L'histoire de l'art est-elle finie, et il nous dit la chose suivante. « Autrefois, l'artiste étudiait au Louvre les chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, il va au British Museum pour envisager l'histoire entière de l'humanité, reconnaître l'historicité des cultures passées et prendre ainsi conscience de sa propre historicité. L'intérêt anthropologique prend le pas sur l'intérêt purement esthétique. » Voilà une autre manière de dire les choses. Et pour moi, le reformuler d'une autre façon, il faut peut-être penser l'histoire de l'art dans une perspective anthropologique et non pas simplement dans la perspective d'une histoire cultivée, refermée, sur une forme d'art d'ailleurs précisément en voie de disparition. Là, il nous parle de l'artiste contemporain. L'artiste contemporain va au British Museum et pas seulement au Louvre. Voilà donc quelques propos et puis je suis disposé à en discuter.